سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir pour reprendre l'étude des noms d'Allah. Et nous étions avant les vacances en train de voir les résultats de, on appelle ça thamarat ul iman, sur le plan spirituel, les résultats de, du fait de développer la conviction et la croyance sur le nom d'Allah al-Hafir, celui qui protège. Et le dernier point qu'on avait vu, c'était ce qu'Allah promit aux personnes qui protègent sa religion. Protège sa religion, ça veut dire quoi? Parce que là on retrouve le mot hafidha. Comme le prophète avait dit à Ibn Abbas radiallahu anhuma, lorsqu'il était sur sa monture, ihfadillaha yahfadhuk, protège la religion d'Allah. Les savants disent, ça veut dire quoi? Protège la religion d'Allah. Allah n'a pas besoin de personne pour protéger son dîn. C'est Allah qui protège son dîn. C'est dans le sens de respecte. Respecte la religion d'Allah. Accomplis, fais ce qu'il y a à faire, reste éloigné de ce qui est interdit, recherche l'agrément d'Allah et fais en sorte que toute ta vie soit consacrée pour la recherche du contentement divin à travers la pratique de son dîn. Et on avait conclu ce point en rappelant, vous vous rappelez le mawquf de Ali ibn Abi Talib, ça remonte à un mois et demi à peu près, où Hazrat Ali radiallahu anhu avait dit que chaque croyant à qui le choix est accordé entre deux situations, amr dunya wa amr al-akhira, quelque chose en rapport avec ce dunya et quelque chose d'autre en rapport avec le akhira, fakhtara amr al-akhira ala dunya, si cette personne choisit le akhira, le contentement d'Allah avant le dunya, avant son nafs, avant ce qu'il en vit de faire, fadhalika alladhi yuhibbu Allah, yuhibbullah, et cette personne aime réellement Allah. Donc ça, c'est une preuve très claire de présence de iman de ton cœur et du fait que tu sois proche d'Allah et que tu aimes ton Seigneur. C'est lorsque tu as un carrefour et que tu as un choix entre le bien et le mal, tu choisis le bien. Et l'autre, par opposition, on l'avait déjà expliqué, donc on ne le répète pas. Si la personne choisit le dunya sur le akhira, je choisis d'écouter mon nafs, d'aller vers le péché plutôt que de, d'écouter hein, les ordres d'Allah, ben c'est une personne qui, en réalité, la manzilata lillahi inda, cette personne ne donne aucune importance à Allah de son cœur. Même si, en apparence, la personne jeûne, prie, accomplit le hajj et fait plein de bonnes choses, mais lorsque, je répète, il a le choix entre le bien et le mal, il choisit le mal, ça veut dire qu'en finalité, il ne donne pas, il n'aime pas réellement Allah. Ça, c'est, ça nécessite une prise de conscience et une analyse de mon comportement au quotidien. Et là, on va développer, il y a de très beaux tafsirs, il y a de très beaux versets. Il ne faut jamais dire de beaux versets, tous les versets sont beaux. Mais il y a de très beaux tafsirs sur un verset qu'on avait amorcé un peu avant les vacances. Et en relisant ces notes tout à l'heure et le ta'liq de différents savants sur ces versets, je me suis rendu compte, j'ai dit Alhamdulillah, je pense que ce sont vraiment le contenu spirituel dont nous avons besoin à notre époque. Et je pourrais peut-être rajouter, c'est vraiment le côté qui nous manque à notre époque. C'est tout ce qui concerne la crainte d'Allah quand on est seul. Craindre Allah Azza wa Jal, mais vraiment quand personne ne te voit. Et c'est ça, vraiment le taqwa, la taqwa. نعم. Nous allons donc vers quelques versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alors on dit que oui, mais c'est pas le dars de tafsir du vendredi. Oui, mais de toute façon tout se rejoint. On parle des noms d'Allah et le fait de respecter la religion d'Allah. On fait référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Ibn Abbas et on commente par des versets. C'est notre din de façon générale. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد نسأل الله السلامة والعافية اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار. Ce verset parle d'une situation de l'au-delà. C'est quoi cette situation, Luqman? On est où? On est au début du jugement, au milieu ou à la fin? À la fin. Et ça rejoint le tafsir qu'on avait fait vendredi au Latanier, où on a des versets qui décrivent des scènes de l'au-delà, où les gens du Jannah sont déjà dans le Jannah. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Et ils se posent des questions. Où est Fulan ou Fulan? Où est telle personne? Où est telle personne? Et Allah leur donne la possibilité de voir ces gens qui sont dans le Jahannam et ils échangent. Et c'était quoi le verset? Ah, tu n'étais pas là toi, Latani. Tu étais là, Latani? Tu te souviens du verset? Non. Ah. Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Ils vont demander aux gens qui sont tombés dans le Jahannam comment en êtes-vous arrivé à là. Et là, ils vont dire « Lam nakum min al-musallin, wa lam nakum nut'imu al-miskin, wa kunna nakhudu ma'a al-kha'idin, hatta atana al-yaqin. » Et Luqman se dit « Mais il ne va pas refaire le programme de vendredi. » Non, ce n'est pas de nos habitudes. Mais pour comparer, on a cité il y a quelques jours un verset qui parle d'une situation du « akhira ». C'est-à-dire quand tout est fini. Mes chers frères, quand tout est fini, vous voulez être où? Où serons-nous quand... Mais on souhaite, mais est-ce que c'est le chemin que je suis en train de construire en ce moment? Et là, on a un autre verset que Luqman va nous expliquer qui relate une scène de l'au-delà, mais une scène terrible cette fois-ci. C'est lorsque les gens seront déjà dans le Jahannam. De l'autre côté, les gens sont déjà dans le Jannah. Et recherche des gens qu'ils connaissaient de ce dunya et qui sont partis dans l'enfer. Là, on a une description du Jahannam. Lorsque le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? Et il dira, y en a-t-il encore? C'est effrayant. C'est effrayant. C'est-à-dire que les gens du Jahannam, enfin, c'est-à-dire, les gens du Jahannam sont tous déjà dans le Jahannam. L'enfer est rempli. Et Allah demande au Jahannam, et Allah sait mieux. Mais c'est un signe d'Allah pour que cet échange ait lieu, afin que ce soit un rappel pour nous, min al-an, depuis maintenant. Et on, donc, comme j'ai lu la traduction, et l'enfer réclamera. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Allama Sa'di rahimahullah, il commente ce verset, et le terme es-tu rempli? Wa yaqul, wa dhalika min kathrati ma ulqiya fiha min al-nas. C'est effrayant. Elle dit l'enfer sera rempli parce que nombre de personnes seront jetées dans le Jahannam en ce jour. À moi de me poser la question, est-ce que je serai parmi eux, Allah protège, ou où serai-je? Et pour savoir où je serai, c'est à moi de voir quel chemin je suis en train d'emprunter chaque jour. C'est chaque jour que je construis un sirat. C'est chaque jour que je demande à Allah, ihdina sirat al-mustaqim. C'est ce que je demande, c'est ce que je souhaite. Mais est-ce qu'à la sortie de la mosquée, je vais, j'emprunte, je construis, est-ce que je pose les pierres de mon sirat al-mustaqim, ou alors en sortant de la mosquée, Allah musta'an, je vais vers le haram, les égarements, et je regarde des choses qui sont interdites, je retourne mes péchés. Entre ce que tu demandes à ton Seigneur et ce que tu vas faire après, il ne faut pas qu'il y ait un décalage. Il faut qu'au contraire, ta demande vient du cœur, tu le prononces et qu'ensuite tu fais les efforts qui vont dans ce sens. Non. On continue. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Ce qui est puissant dans ce verset, et on le retrouve dans beaucoup de versets, c'est qu'on a cette opposition entre le Jahannam, une description effrayante du Jahannam, et une description magnifique du Jannah qui vient juste après. Le verset suivant. Donc la traduction, le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Il dit que là, les gens du paradis, yanzuru ma fiha, ils vont voir déjà ce qu'il y a dans ce Jannah. Allahumma ja'alna minhum. Et là, nos fasirines disent que, ô croyants, vois ces deux versets et sache que tu es obligatoirement, tu fais partie d'une des deux catégories. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Le Qiyama, c'est soit le Jannah, soit le Jahannam. Il n'y a pas troisième endroit. D'accord? Bien sûr, sans rentrer dans les détails, il y a Ashab al-A'raf qui seront dans l'attente, mais ça c'est, on n'ouvre pas, enfin on va pas aller dans tous ces points-là. C'est le Jannah ou Jahannam. Et il dit, voilà, ce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure, sache qu'il y a que deux destinations possibles, à toi de choisir où tu veux aller. Et ça veut dire quoi, choisir où tu veux aller? Choisis tes actions. Choisis tes a'mal, choisis ta relation avec Allah. Est-ce que tu veux une relation superficielle avec Allah, où tu vas juste prier et quand tu sors, tu... Hein? Et là, on va voir si on a le temps. On a des commentaires magnifiques et un hadith effrayant concernant... Je le dis tout de suite parce qu'on ne va pas le faire dans un instant. Et ses frères sont de Saint-Pierre, il me semble, mieux ou non?
Non, mais c'est...
D'accord. Ah, donc on ne dira pas, alors. D'accord. D'accord. Un hadith qui dit que des gens qui vont se présenter le jour de Qiyama avec des montagnes de hasanat et Allah va les anéantir. Sahaba dit au prophète d'Allah, décris-nous qui sont ces gens. On a déjà vu des hadiths qui vont dans ce sens, le mouflis, mais c'est pas ce hadith là. C'est pas celui qui faisait plein de bonnes actions mais qui faisait du tort aux gens. Ça c'est réel aussi. Mais ça, c'est de tes relations, mu'amala, ma'annas, avec les gens. Je suis d'apparence pieuse, je fais plein de bonnes choses, mais je vole, je détourne de l'argent, je mens, je fais la médisance, je prends l'héritage des gens, je fais des choses qui... Je sème la zizanie entre les couples et ainsi de suite. Ça, c'est un cas de figure où tes péchés, tes bonnes actions te seront toutes dépouillées et remises aux opprimés. C'est des situations extrêmement graves. Là, on a autre chose. Le prophète dit que c'est des gens qui auront fait plein de bonnes choses. C'est la même amorce, même accroche que le premier hadith qu'on vient de citer. Il dit que, mais ces gens-là, lorsqu'ils étaient seuls, isolés, c'était entre eux et Allah Abbas, ils allaient toujours vers le haram. Avec une apparence de piété, de bonnes actions, mais lorsqu'ils étaient seuls, ils se laissaient aller vers le haram. Et en relisant ça tout à l'heure, je me suis dit que nous sommes vraiment à une époque où l'essentiel des péchés est caché. Avec nos téléphones portables, ordinateurs, tablettes, télévisions et ainsi de suite, le nombre de haram, je pense qu'il y a plus de haram que de bonnes choses. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on arrête notre abonnement internet et ainsi de suite, non. Mais je veux dire que le danger, il est là, il est autour de nous. La tentation, elle est énorme. Je pense que jamais Shaitan n'a eu autant d'emprise sur l'être humain qu'à notre époque, avec les réseaux sociaux et tout ce qui vient avec. On est tous d'accord? C'est-à-dire que mais après, vous savez, mes chers frères, plus, retenons la règle, plus le fitna est élevé, plus le danger est important pour notre foi, celui qui résiste, sa récompense, elle est énorme. Sa récompense, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que ce que nos grands-parents, je ne remonte pas à des siècles, hein, ce que nos grands-parents n'ont jamais eu comme tentation, ils n'ont jamais connu ce genre de péché, parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait peut-être la télé, en noir et blanc, et très peu de chaînes, il n'y avait pas encore autant de décadence accessible à tout le monde, je veux dire, à moins que celui qui va chercher le péché. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas connu ces fitnas, ben pour eux, rester dans le droit chemin, c'était beaucoup plus facile. Et moins périlleux, tomber dans le péché. Alors que nous, Allah Moussa, nous sommes, on a dit, entourés. Le haram, le cheikh, il dit, le haram, tu peux l'avoir en 2 secondes. Une situation de péché. Tu peux te mettre en situation de péché en quelques instants. Il y a 2 semaines, je ne sors pas du sujet, mais je ne raconte pas trop d'histoires non plus, mais on entend des choses. C'est à l'Ukhman, on entend énormément de choses. Un frère qui prie et tout, mais il est sur Tinder. Ça se dit bien Tinder? Ça se dit comme ça? Vous l'êtes dessus?
Non.
Tu as dit oui.
Je connais le nom.
Comment tu connais? Parce que moi,
pour parler aussi.
Ouais. Moi, je préfère Kinder. Tranquille. Il y a pas de surprise. Il y a une surprise, mais ça c'est halal. Tinder. Mais comment est-ce que tu peux fréquenter la mosquée et tu as ta photo de profil sur Tinder? Mais tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Demande à Allah de te donner une épouse virtuelle. Ah, célibataire. Hein? Demande à Allah de te donner une épouse virtuelle, mais va pas sur Tinder. Ittaqillah. Et ça, c'est unanime dans toutes les religions révélées par Allah. Dans l'islam, c'est clair, chez les chrétiens, chez les juifs également, les yahouds, l'adultère, c'est haram. C'est-à-dire que personne ne pourra un jour venir me dire que monsieur, vous avez tenu des propos contraires aux valeurs de la société extrême, d'accord ? Avant, on parlait d'extrémisme, maintenant c'est beaucoup plus subtil. Ben non, le zina est condamné dans l'islam, ou la taqrabu zina est condamné dans la religion juive et dans la religion chrétienne aussi. Donc c'est pas la position de l'islam qui est ferme. Aller écouter une prêche un dimanche matin ou dans une synagogue, c'est certainement le même discours. Donc on est très clair, on est très carré, on est dans le message divin. On continue. Quand on n'est pas exposé à de tels péchés, il est normal d'être, il est plus facile d'être sur le droit chemin. Mais quand Allah t'éprouve par beaucoup de fitna et que tu restes sur le droit chemin, la récompense ajrun azim. La récompense, elle est énorme. Et moi, je pense à ce jeune de 17 ans, 18 ans, qui va au lycée, qui est à l'université et qui contrôle son regard et qui fait en sorte de ne pas aller vers le haram alors que tout l'invite vers le haram. Mais ce genre de comportement, c'est sublime. C'est peut-être le plus grand, comme on aime utiliser le terme bouzrouk, c'est peut-être l'homme le plus pieux dans l'assemblée. Parce que lui, il connaît des péchés que tonton ne peut pas savoir avec sa barbe blanche et son masque bleu. Ça va bien, le bleu et le blanc, c'est bien. Il manque un peu de rouge. Quelqu'un qui a déjà pris de l'âge, il ne peut pas savoir. Et ce n'est pas lui qui va être invité sur Tinder ou regarder des vidéos de TikTok. Et voilà, c'est terminé ça. Mais ceux qui sont exposés à ça et qui malgré ça restent sur le sirat al-mustaqim, qui demandent à Allah de les protéger et qui se préservent, qui font l'effort, je dis chapeau, subhanallah. Et ce n'est pas pour rien que le jour de Qiyama, parmi les sept, on est sorti du programme, désolé, parmi les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, il y aura Shabun Nasha'a fi ta'atillah, un jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah. C'est-à-dire cette phase-là de la jeunesse, c'est le plus important. Parce que c'est la phase vraiment où on a le plus de tentations. Donc celui qui reste de le droit chemin, il est accepté par Allah pour toute sa vie, Inch'Allah. Allahumma ja'alna minhum. Amin. On continue. Donc, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Ça, on a déjà lu. Hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme de qualité, plein de repentir et respectueux des prescriptions divines. Et je raccroche la traduction au mot. On a awwab et Hafiz. Et Hafiz, c'est le sujet. Allah qui est le protecteur, et Allah te demande de protéger son dîn, de rester ferme de son dîn. Donc, Hafiz, Allama Sa'di, Rahimahullah, dit, je vous passe des descriptions du tafsir concernant le paradis qu'il leur est promis avec ce qu'il y a comme bienfait. Je pense que c'est des versets que vous avez déjà entendu, dont vous avez déjà entendu les commentaires. Moi, ce qui m'intéresse, ça, ce sont les deux qualités. Ces deux qualités-là, je dois les développer. Awwab ay yaqul raja'un ila Allah fi jami' al-awqat bi dhikrihi wa hubbihi wa al-isti'anati bihi wa du'a'ihi wa khawfihi wa raja'ihi. Ça c'est magnifique. Dit que ce sont des gens qui reviennent tout le temps vers Allah. C'est des gens qui tout le temps en toutes circonstances, difficultés, facilités et ainsi de suite, leur cœur est avec Allah. Et même s'il arrive qu'ils sombrent légèrement de l'insouciance, ils reviennent vers Allah. Il n'y a pas forcément de Ramadan, Hajj et période normale. C'est des gens qui vivent pour Allah, Azza wa Jalla, qu'Allah nous accorde ses qualités. Et fi jami' al-awqat, dans toutes les situations, par le dhikr d'Allah, par l'amour d'Allah, et on avait vu la dernière fois les sept actions intérieures qui prouvent que l'amour d'Allah est vraiment, est installé dans ton cœur. Wal-isti'anati bi, ça c'est le plus dur. Dans quel verset je retrouve ce mot isti'ana? Il y a Oustad, il y a Bawab. Bawab c'est le portier. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est ce que je dis tout le temps. Oh Allah, c'est uniquement toi que j'adore et c'est uniquement auprès de toi que je cherche secours. C'est pas quelque chose de simple. Quand tu es dans une difficulté, quand l'être humain est dans une situation difficile, celui qui arrive à se jeter en prosternation devant Allah, à lui demander de l'aide et à réaliser que l'épreuve vient d'Allah, la délivrance viendra d'Allah, et qui reste ferme là-dessus, quoi qu'il arrive, quoi qu'on te dise, c'est puissant. C'est celui qui a développé « Wayaka nasta'in ». Naam, hada. Wadu'aihi, qui demande du'a en permanence à Allah. Je prends un peu de temps, je détaille, je sais, j'en prends beaucoup de temps. Mais ça, c'est le sens de « awwab ». Awwab, c'est la personne qui également demande à Allah constamment des du'a. Et on avait également dit ça il y a quelque temps, que les savants disent que un signe que en ce moment ta relation avec Allah elle est vraiment bien établie, c'est le temps que tu passes dans les du'a et la qualité de tes du'a. Je ne parle pas du du'a qu'on fait des al-imam, qu'on ne comprend pas grand chose en général et qu'on dit amin, 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 regarde le thé, là il fait grand doigt et puis on s'en va. Ça c'est pas du'a, non. C'est-à-dire, c'est pas ça le du'a qu'on recherche. Le du'a qu'on recherche, c'est un lien avec Allah. Je passais près d'une église pendant les vacances. Et c'était une petite colline, et je regardais dans l'église, les portes étaient grandes ouvertes. Je regarde ce qui se passe et tout et tout. Et j'ai vu une vieille dame, une dame âgée, qui était agenouillée, comme les positions de prière, donc les genoux sur le sol. Vous voyez comment il prie, hein, et en train de prier. Et j'ai regardé cette prière, je regarde cette dame avec une certaine admiration. Et je me suis dit que l'essentiel de leur prière, c'est converser avec Dieu. Elle demande là, c'était loin, j'entendais pas, hein, mais elle demande à son Seigneur plein de choses et de protection contre plein de choses. Là, je me dis que quand notre prophète alayhi salat, ça me dit que ad-du'a huwa al-ibada, c'est important. Parce que le du'a, ça doit être vraiment un lien avec Allah, mais un lien intime et personnel, où tu demandes à Allah réellement, vraiment, ce que tu as le plus besoin. Et tu lui demandes protection contre tout ce qui te fait mal, contre tout ce qui t'angoisse, tout ce que tu crains qui t'arrive. Mais je veux dire que pour demander avec autant de ferveur et de concentration, il faut y croire. C'est pour ça que du'a, c'est le ibadah. C'est la grande preuve que tu y crois dans ton cœur. La salah, mashallah, imaduddin, pilier de la religion, mais gestuelle. Maintenant, si tu arrives à associer le gestuel au cœur, ça grince cette porte, il faut mettre un peu de WD-40. Hein. Si tu arrives à joindre le gestuel avec le cœur, mashallah. Je veux dire que le du'a, celui qui demande à Allah, qui détaille ses demandes, je dis encore une fois, pas réciter des du'a que tu connais pas au cœur. Même si, bien sûr, réciter les du'a masnoun en arabe, c'est parfait. Mais essaie de rajouter la compréhension. D'accord? Je ferme ces parenthèses. Et donc, demander avec cœur, d'accord? Exemple, quelqu'un, un jeune va passer son permis ou il a fait une demande. T'as fait ta demande en mariage? Tu fais ça quand? D'accord? Et il fait sa demande en mariage. Et il a déposé son CV pour un travail, ainsi de suite. Et il demande à Allah, il détaille sa demande. Ya Allah, j'ai besoin de ce travail. Ya Rab, avec ce travail, je pourrais, Inch'Allah, me marier, me préserver mon iman. Ya Allah, ouvre. C'est-à-dire, il faut y croire. Tu es en train de demander silencieusement au milieu de la nuit qui t'entend, qui t'écoute, qui te voit. Il y a réseau, il n'y a pas réseau. C'est que tu es sûr que cette demande-là, elle arrive à ton Seigneur. C'est ça que celui qui fait du'a tout le temps, c'est puissant. C'est une preuve que vraiment l'iman billah est dans ton cœur. Tout ça, c'est un mot. Ça, c'est la beauté du tafsir. Et c'est la compréhension qu'Allah a accordée aux mufassirin, rahimahumullah. Naam. Likulli awwahim, awwabin, et dit également, wa khawfihi wa raja'ihi. C'est celui qui, en toutes circonstances, ressent la crainte d'Allah, mais également Raja. Raja, c'est quoi? L'espoir en Allah. Allez, on ferme cette parenthèse. Donc ça, c'est une première qualité. Ce paradis qu'Allah a promis à ceux qui ont cette qualité awab, qui a été traduit par plein de repentir, mais je dis tout le temps, les traductions ne sont jamais complètes. D'accord? C'est ça. Ça nous rapproche du sens. Et je termine avec ça pour ce soir. Hafiz. Respectueux des ordres d'Allah, et c'est le thème du jour de l'étude de ce nom d'Allah. Ay yuhafizu ala ma amara Allah bihi. La personne respecte et suit scrupuleusement ce qu'Allah lui a ordonné. Bimtithalihi ala wajh al-ikhlasi, et il l'accomplit avec sincérité. C'est pas encore la personne qui fait plein de bonnes actions parce que c'est l'habitude, parce que Moulissab m'a appris, parce que papa m'a amené masjid. C'est bien aussi, mais essayons d'y mettre le cœur. Quand tu pries, c'est pas juste le devoir du musulman. Mais déjà, si tu arrives à cette approche que c'est le devoir du musulman, c'est déjà un peu mieux que je fais ça depuis que je suis petit. D'accord? C'est déjà un petit peu mieux. Maintenant, l'idéal, c'est que le cœur y est et que tu comprends ton alhamdou, ton al-fatiha, ton subhan rabbi al-a'la, subhan rabbi al-azim, et tu arrives à faire le lien entre ces adhkars et les différentes positions. Ça fait une salah qui est vraiment puissante et présente. Donc, dans ce verset, description du Jahannam et le paradis qui se rapproche des pieux, et deux qualités qu'Allah a citées, des pieux, et ensuite Allah Rabbul Izzah développe, mais on va s'arrêter à là. Je pense qu'on a fait nos 20 minutes, on est à 26 minutes. Man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib, traduit par. Et vous savez, le verset, j'ai pas développé ça, hada ma tu'aduna. Tu'aduna, ça vient de wa'd. Et wa'd, ça veut dire promesse. Et on retrouve cette racine dans un autre verset et sous une autre forme. Inna Allah la yukhliful mi'ad. D'accord? Donc ce verset, voilà ce qui vous a été promis. Promis par qui? Promis par Allah. Si Allah te l'a promis, Allah te l'accordera. Mais fais ce qu'il y a à faire. Je traduis juste le prochain verset, au moins on sait qu'est-ce qu'on va voir la prochaine fois. En fait, c'est la suite, hein, les personnes qui sont Awwab, Hafidh. Maintenant, il y a un autre verset qui donne encore plus de détails sur leur qualité. Qui redoute, man khashiya ar-rahmana bil ghaib, qui redoute le tout miséricordieux, bien qu'il ne le voit pas. Bien qu'il ne le voit pas. Qui redoute, qui a la crainte d'Allah, bien qu'on ne peut pas, le voir, mais on éprouve la crainte d'Allah. Man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib, et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Et c'est ce qu'on va essayer de développer, inshallah, la prochaine fois, le sens profond de khashiya ar-rahman, la crainte d'Allah. Et c'est quoi ce cœur qui muqbil, qui va toujours vers l'obéissance d'Allah Rabbul Azza. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. On ne va pas être long là-dessus pour la prochaine fois. Et si on a le temps, on verra. Non, je pense qu'on pourra le faire. On va essayer de développer ce hadith qui est dans le... Je n'ai pas retrouvé la référence, mais c'est le Silsila Sahiha d'Albani. Donc, c'est un hadith qui est authentique où le Prophète me parle de ces gens qui font beaucoup de bonnes actions. C'est une mise en garde. Mais lorsqu'ils sont exposés au péché, ils se laissent aller. Qu'Allah nous protège. J'avais prévu de répondre à une question d'une sœur qui m'avait demandé quelle est la définition des petits péchés et donnez-moi une liste des petits péchés. La règle générale, c'est qu'est-ce qu'un grand péché, kabira min adh-dhunub, c'est tous les péchés pour lesquels il y a une mise en garde et une annonce de punition fil qabri, dans la tombe ou le jour de qiyam. Donc quand il y a un péché pour lequel il n'y a pas ces mises en garde très clairement détaillé, ça rentre dans la catégorie des petits péchés. À mon humble avis, il ne serait pas productif de dresser une liste de petits péchés. Le Prophète n'a jamais donné les petits péchés. Par contre, il citait les péchés graves. Par exemple, al-mubiqat, les péchés destructeurs, et ainsi de suite. Il citait quels sont les péchés graves. D'accord ? Pour que le croyant fasse attention. Mais les petits péchés, ne les listez pas. C'est quoi la crainte? Si je dis que voilà, fais ça, 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 c'est petit péché, on risque de minimiser les péchés. Un sahaba disait à une génération qui était venue après que vous, enfin pas nous, hein, les générations après le sahaba, c'est les tabi'in, vous cumulez parfois des péchés en pensant qu'ils sont petits, alors que nous, on les considérait comme étant kabir, comme étant des péchés graves. Et dans un autre hadith, il est stipulé que, j'ai pas le hadith en tête, mais c'était le sens, que c'est comme une, les gens qui cumulent les petits péchés, c'est comme une personne qui régulièrement va prendre un petit morceau de bois, des copeaux de bois, un petit morceau de bois sec, il cumule, mais en finalité, ça devient un brasier. Ça devient un brasier. Donc, il ne faut pas donner de l'emphase et détailler les petits péchés, mais connaître quels sont les péchés graves. Et le fait de persister dans les petits péchés risque de faire de ce croyant un fasiq, un pécheur endurci. En finalité, le nombre de petits péchés cumulés va créer ces points noirs. Parce que le point noir, c'est pas pour les péchés graves. Hein. Le point noir qui vient sur le cœur, c'est chaque petit péché. Clic-clac, le petit flash là, plus fort que radar tourelle. On a compris de quoi je parle. Le fait de laisser libre cours à son regard, on ne baisse pas le regard quand il faut le faire. Ben, tout ça, c'est des petits péchés, ça fait des points noirs. Et en finalité, le cœur devient noir et imperméable. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas d'avis qu'il faut creuser pour connaître quels sont les petits péchés. Il faut tous les éviter. Et pour devenir muttaqi, pour développer taqwa Allah, ben, on commence par abandonner tous les petits péchés. الله رب العزة أكسب سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين